Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet. Bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le référendum en Nouvelle-Calédonie.
Et oui, puisque vous savez qu'Édouard Philippe est en Nouvelle-Calédonie après le référendum sur l'indépendance, victoire du non et maintien de l'archipel dans la France à 56,4% et maintien aussi de la France en Océanie, mais sous quelles conditions? On en parle avec vous, Denise Fischer, bonjour.
Bonjour Xavier.
Merci d'être au téléphone avec nous depuis Canberra en direct. Vous êtes ancienne consul générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie et visiting fellow à la Australian National University. Alors pour commencer, c'est bien sûr une victoire des loyalistes, hein, 56,4%, et aussi une victoire écrasante de la participation, plus de 80%. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, vous ?
Ah, pour moi, premier instant, je voudrais dire que dans ce coin du monde, c'était un moment historique. C'était le processus, le vote pour voir les gens patiemment en attendant dans les grandes queues parce qu'il y a tellement de gens qui voulaient voter. Le fait que la France a tenu sa promesse après des années, surtout la déroulement de ce processus de décolonisation qui était tant cherché par les petits pays de la région. C'est un moment très très important pour nous et très impressionnant. Même, je dirais, je suis très émue, j'étais très émue hier de voir cet déroulement paisible chez notre voisin le plus près. De Brisbane. Mais du point de vue du résultat, à mon avis, je sais qu'il y avait des surprises. Et pour moi, le fait que l'écart entre le oui et le non était un peu plus étroit dont on aurait prévu, c'est très important pour moi pour encourager les deux côtés de participer dans un processus de dialogue pour les années à venir. Je sais qu'il y a beaucoup de possibilités pour une deuxième, même une troisième référendum tant que le non emporte.
Oui.
Mais je pense que ce processus de parallèle, de dialogue est très important pour le pays et pour l'Australie. Je dirais que nous n'avons aucun intérêt sur le résultat. C'est pour les peuples de Calédonie de décider. Mais pour la stabilité chez notre voisin dans la région, c'est très important.
Et qu'est-ce que vous retenez du point de vue des résultats? Est-ce que c'est plutôt justement cette victoire du non assez timide finalement, hein, qui montre qu'il n'y a pas une opposition si marquée, ou est-ce que c'est cette carte des résultats électoraux qui, elle, montre au contraire une opposition très nette entre les provinces et les zones Kanak et puis les zones non Kanak?
Oui. Oui, justement, pour ce processus qui va continuer pour définir ce que va devenir la Calédonie pour l'avenir, ce qui est le plus important, c'est que la division entre le oui et le non corresponde parfaitement à la division Kanak-non-Kanak. Et là, c'est l'important, surtout pour l'État, qui essaie de conduire ce processus d'une manière impartielle, quoique toujours préférant que la Nouvelle-Calédonie reste en la France. Mais le fait, même avec une majorité de hier, le fait qu'il y a 43,6% des gens, remarque, les Kanaks, les autochtones, qui tiennent à l'indépendance, ça ne peut pas être ignoré. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir définir cet avenir sans considérer leur position.
Oui.
Alors, c'est très délicat, la tâche pour tous les côtés.
D'autant que 43,6%, c'est vraiment pas loin de la proportion exacte qui est de 46% du corps électoral kanak qui devait voter sur la population. Donc c'est quasiment la majorité.
Oui, mais c'est plus important dans ce cas où il y a l'électorat restreint, le corps électoral restreint, qui veut dire que c'est à peu près une justification pour les kanaks de leur stratégie très, très pointue. En première instance, de négocier dans l'accord de Nouméa un deuxième et un troisième référendum au cours de 4 années. Deuxièmement, l'année prochaine, de sécuriser le fait que tous les autochtones votent automatiquement. Ils sont qualifiés de voter. Pourtant, l'autre côté, ça va rester assez statique parce qu'il y a les autres critères pour les non-Kanaks. Et troisièmement, leur stratégie de mobiliser les jeunes. Et les jeunes Kanaks, ils ont voté, c'est très clair. Et apparemment, ils ont voté pour l'indépendance. Même ceux qui habitent Nouméa.
Oui.
Ce qui est, on aurait dit, ils sont engagés dans l'économie, il y aura un enjeu pour eux, d'emploi, d'économie et tout ça.
Alors
c'est pour ça que c'est très compliqué, ça complique l'arène pour les quatre années à venir.
Oui. Et si on prend, parce que justement, il y a effectivement deux référendums possibles qui peuvent intervenir encore en 2020-2022. Si on prend dans l'ordre, disons, les deux aspects de ce qui peut arriver du point de vue de la situation, disons, politique, vous parlez de la jeunesse qui a voté en masse. Il y a aussi eu quelques caillassages, encore une route barrée vers à côté de Nouméa, et également des mobilisations plus importantes de cette jeunesse qui ont bloqué une mine sur revendications écologiques dans l'est du
oui.
pays. C'est une jeunesse qui est mobilisée politiquement ou qui est en colère, pour le dire comme ça aujourd'hui ?
Mais c'est compliqué, justement. Et je dirais que oui, il y avait des incidents, il y avait des véhicules qui étaient brûlés hier soir, les caillassages. Et le grand espoir, c'est que le processus puisse continuer dans la paix et avec la stabilité. Et je dirais que pour les leaders, les responsables indépendantistes, ils peuvent dire à leurs jeunes, regardez, nous avons gagné 43% de vote, il y a de l'espoir, on peut négocier. Et pour moi, mon analyse, c'est qu'il y a suffisamment de convergence entre les propositions qu'on a vues ces derniers mois, qui viennent des modérés, des partis modérés de chaque côté, pour envisager la possibilité d'un accord sur la forme de la Calédonie en avenir, peut-être avec un peu plus d'autonomie, si le résultat non persiste au cours et au fur et à mesure des années à venir.
Donc les indépendantistes ou les autonomistes du moins en force, c'est cette question du destin commun, c'était les mots déjà de Jean-Marie Djebaou à l'époque en 88 et de Jacques Lafleur. Quand vous parlez de concessions, jusqu'où pourrait aller la France selon vous? Il y a déjà beaucoup de concessions qui ont été faites sur la politique étrangère encore, sur la défense, sur...
Oui. Ça, il reste toujours ces responsabilités et les compétences régaliennes. Il y a ces dispositions qu'il faut considérer, mais il y a aussi les considérations, par exemple audiovisuelles. Il y a numéro de choses qui n'étaient pas transférées, des compétences qui n'étaient pas transférées dans ces dernières années, justement non pas parce que la France n'était pas préparée de les transférer, mais plutôt parce que les deux côtés ne pouvaient pas se mettre d'accord. Et surtout l'audiovisuel, l'éducation supérieure, les choses comme ça. Alors, il y a tout un tas de possibilités de considérer et de marchander, si vous voulez, quelques ambitions, quelques devoirs, quelques compétences à neuf.
Et en tout cas,
c'est ça ce que je crois on va voir.
Oui, avec 43% de favorables à l'indépendance au lieu de 30%, c'est effectivement une force pour les Kanaks. Du point de vue de la région, quel signal c'est à la région Indo-Pacifique? Est-ce que c'est un signal plutôt de décolonisation, comme on l'a beaucoup dit? On sait qu'il y a une pression de l'ONU en ce sens, ou est-ce que c'est plutôt un signal de maintien d'une France forte dans un axe Indo-Pacifique, comme l'avait dit Emmanuel Macron?
À mon avis, c'est les deux. Ce sont les deux. Parce que d'un côté, quand je parle de ce vote vu dans la région comme une étape de décolonisation, c'est-à-dire c'est par rapport à leur politique dans les années 80 pour influencer la France de changer sa position dans la région, ce qui était nettement fait. la France a mis beaucoup d'efforts pour devenir un partenaire très constructif dans la région. Alors c'est pour ça que oui, les petites îles de la Pacifique Sud, ils regardent très près, ils ont envoyé des observateurs pour le vote hier, et c'est important pour eux que ce processus continue. Mais en même temps, le fait que M. Macron a lui-même défini une vision de l'Indo-Pacifique avec la Calédonie comme pointe est de cette diamante entre Paris, New Delhi, Canberra et la Nouvelle-Calédonie. C'est important parce que ça donne un signal à la région que M. Macron, la France, voit l'importance de contrebalancer le poids d'un Chine qui est de plus en plus remontante dans la région. Pour nous, je dirais que c'est un peu compliqué parce que la région, notre région ici, nous sommes habitués à des partenaires exogènes. Il y a le Japon, par exemple. Oui. Et la Chine, elle est une économie ici, hein, dans notre espace. Alors, c'est normal qu'une grande économie, ça va s'engager dans le Pacifique Sud, bien sûr. Mais on veut que ce soit sur nos termes, sur nos, que la région dicte la façon par laquelle elle se comporte.
Oui.
Alors c'est important. Et certes, pour avoir un allié de l'Ouest comme la France, avec beaucoup de ressources, c'est très utile, c'est très valable pour la région.
Certainement.
Alors on veut que la France continue à s'engager
dans la région. C'est dit et on vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et ce point de vue d'Australie. Il faut toujours voir le monde là où il est. Merci beaucoup Denise Fischer, ancienne consul générale australienne en Nouvelle-Calédonie.